Bonjour. Avant de commencer en préambule, je voudrais expliquer un peu le contexte de cette intervention, la mienne, et puis celle dont nous donnera Jean-Michel après. D'abord, peut-être en commençant par, comme chacun s'exprime depuis le seuil de sa maison de savoir, la définir. La mienne propre, je suis à la fois sociologue et philosophe en philosophie politique au CNRS, dans un laboratoire qui s'occupe de questions d'éthique. Et mon travail essentiel porte d'ordinaire sur des questions relatives et au rôle des médias dans les démocraties, et aussi depuis quelques années, peu d'années, une réflexion et une analyse sur les cultures criminelle, c'est-à-dire les sous-cultures criminelles, c'est-à-dire mafia, pègre et nazisme. Voilà. Donc, pourquoi je vous précise cette chose, c'est que c'est juste pour indiquer en creux mon incompétence dans les domaines de didactique, de pédagogie, qui sont votre richesse et votre préoccupation première. Donc, ce que j'aurais à vous dire et ce que j'ai à vous apporter peuvent être lestés de ce déficit un peu. La deuxième chose, c'est donc un contexte particulier qui est consécutif à deux alertes. La première, c'est le rapport de l'inspecteur général Aubin. De juin 2004, dans lequel, vous savez, c'est ce rapport qui avait été fait sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Et dans ce rapport, à la page 23, l'inspecteur général Aubin remarque la chose suivante: quoi qu'il en soit, si le racisme le plus développé dans la société reste le racisme anti-maghrébin, ce n'est plus le cas dans les établissements scolaires, où il a été très nettement supplanté par le racisme anti-juif. Il est en effet sous nos yeux une stupéfiante et cruelle réalité. En France, les enfants juifs, et ils sont les seuls dans ce cas, ne peuvent plus de nos jours être scolarisés dans n'importe quel établissement. Donc ça, c'est la première alerte. Et la seconde, elle est due à notre ami Benoît Falaise, qui, à la suite d'un rapport d'enquête mené dans l'Académie de Versailles, s'est interrogé sur la possibilité encore d'enseigner la Shoah dans un certain nombre d'établissements. Et remarquant que un certain nombre d'enseignants rapportaient un effet de saturation de ce qui apparaissait comme une victimisation récurrente, médiatique à la fois, scolaire et sociétale du peuple juif, et qu'il y avait un certain nombre de poncifs, ça apparaissait comme un poncif, et qu'il y avait aussi le sentiment que c'était une question sur laquelle il fallait impérativement s'émouvoir, il était requis de s'émouvoir. Donc ces observations, ces deux alertes, on fait que, d'une part, ensemble, en fait, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, en concertation avec le ministère de l'Éducation nationale, ont jugé bon de s'adresser à moi pour savoir qu'est-ce qui serait possible de faire, compte tenu que des signes tels que des manifestations d'antisémitisme ou une espèce d'effet pervers de l'enseignement de la Shoah puisse avoir des conséquences négatives, à venir et durables, auxquelles il fallait pouvoir répondre vite avant que ça passe d'un moment germinal à une installation définitive. Alors, j'ai plusieurs encore remarques à faire. La première, c'est que de l'endroit d'où je suis, de mon champ de travail, l'antisémitisme est sûrement un symptôme, sûrement quelque chose qu'il faut scruter de près. Néanmoins, je pense que les enseignants ont affaire à des problèmes beaucoup plus vastes aujourd'hui, beaucoup plus considérables. Il y a une crise beaucoup plus grande, à la fois culturelle et, je dirais, spirituelle au sens de Karl Jasper, et que l'antisémitisme possible peut s'accrocher à cette crise générale, crise d'autorité, fait que les médias imposent à la fois une espèce de glorification de la position de victime. On sait que qui communique le mieux sur sa souffrance à l'acquiescement des médias et l'intérêt des médias immédiatement, et ça devient même une stratégie aujourd'hui pour tout groupe minoritaire de faire valoir une revendication aussi légitime soit-elle, d'en passer par la communication sur une souffrance réelle ou supposée. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on est dans une société, nous constatons les uns les autres, où la posture rebelle est évidemment la posture la plus héroïsée et la plus idéalisée. Et les enfants en sont, et les élèves en sont évidemment les porteurs en premier. Donc, il me semble que la question de l'antisémitisme, au fond, devrait être traitée, pensée à l'intérieur de cet ensemble beaucoup plus vaste. Ça a été le sens aussi de ma réflexion en amont et de mes remarques à la Fondation comme au référent au sein du cabinet du ministre de l'Éducation nationale qui m'avait sollicité pour parler et réfléchir sur cette question. Alors, encore une remarque sur la FMS, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, c'est un organisme paritaire dont le conseil d'administration est pour moitié constitué de représentants des grandes institutions publiques, des grands ministères, et pour une autre moitié de représentants d'associations juives, d'associations d'anciens déportés, d'associations culturelles, etc. Beaucoup sont membres, c'est pas négligeable, sont membres de l'enseignement, soit ce sont des enseignants, soit ce sont des universitaires, soit ce sont des inspecteurs d'académie, et un certain nombre de dirigeants dans cette fondation ont participé de cabinets ministériels, qui chez Jacques Lang, qui chez Claude Allègre, etc. Bon, ça c'est pour dire l'intérêt spontané vis-à-vis du monde enseignant, à la fois par, je dirais, compréhension des problèmes, mais aussi par affinité immédiate. Alors, j'ai suggéré que, aux deux indices évoqués plus tôt, aux deux alertes évoquées plus tôt, il y avait peut-être deux choses à aller voir. D'une part, qu'est-ce que pouvait être l'enseignement de la Shoah? Comment pouvait-il se faire? Et l'autre, quel était le statut des Juifs dans l'enseignement aujourd'hui? Pour ça, j'ai constitué une première équipe faite d'universitaires et de chercheurs, petite équipe à qui a été confié un travail de lecture, exploratoire, pas d'épluchage systématique de l'ensemble des livres scolaires du second cycle, et puis une exploration encore plus superficielle, on va dire, sur les livres du premier cycle. Alors cette équipe, je dois mentionner les membres, il y avait Joël Alouche Benayoun, qui est sociologue au CNRS, membre du groupe de sociologie des religions, et en même temps qui est spécialiste de sciences de l'éducation, et qui est maître de conférences en sciences de l'éducation à Paris 12. Il y avait Frédéric Ancel, qui est un géopolitologue, et qui enseigne à l'université de Rennes. Il y avait Patrick Amoyel, qui a enseigné longtemps la philosophie à l'université à Nice et qui continue à faire de la formation dans les UFM, en particulier aussi pour les CPE, que par ailleurs psychanalyste. Il y avait Philippe Boucara qui est un historien et qui enseigne à Sciences Po. Il y avait une doctorante, une jeune doctorante historienne, et Amélie Blonstein. Et ce que je vais vous rapporter, c'est le travail donc d'une lecture exploratoire, sans épluchage systématique, j'insiste, sur les livres scolaires, étant entendu que ces livres scolaires sont un peu les interprètes de ce que nous donne le Conseil national des programmes. Alors, le travail a porté donc sur les ouvrages du second cycle, à peu près de tous les éditeurs, c'est-à-dire Belin, Magnard, Hachette, Nathan, Bréal, Attier, Bordas, Delagrave. Ça a porté aussi sur les livres d'histoire et de géographie, de philosophie, et partiellement sur les livres de lettres. Il n'y a pas eu d'études sur tout le matériel parascolaire, et il y a tout à fait conscience que le statut du livre scolaire pour l'enseignant est un indicateur, mais pas nécessairement un bréviaire, et qu'il a sa liberté, son autonomie de gestion par rapport au livre qu'il a à fournir et à proposer à ses élèves. Le but de cette exploration n'était évidemment ni intrusive, ni imprécative, mais plutôt d'avoir une impression de ce qu'il en résultait de cette lecture. Alors, au résultat, tout de suite, autant vous le dire, d'une part, on ne va pas distribuer des bons et des mauvais points entre les livres, parce qu'il n'y a pas d'ouvrage d'excellence. Enfin, moi, je dirais personnellement, il y en a un en philosophie, c'est un éditeur qui est plutôt meilleur que les autres, mais sinon, c'est équivalent. Il y a des inégalités dans les uns et les autres, mais ça s'équilibre à peu près bien, il n'y a rien à en dire. De toute façon, on sait bien que les livres sont obligés comme je le disais, d'être les interprètes des programmes définis par le Conseil national des programmes. Il n'y en a pas de plus mauvais, et au bilan, il n'y a pas non plus de découvertes dramatiques, scandaleuses, qui puissent prêter à quelques polémiques ou qui méritent une quelconque interpellation. Je veux dire, c'est-à-dire qu'ils passent un échelon autre que celui du travail d'un travail de recherche, quoi. Bon. On peut juste avoir de temps en temps le sentiment que plus le sujet traité est proche d'une histoire, enfin de l'histoire immédiate, plus on a l'impression qu'il y a une influence médiatique qui se fait sentir. Au détriment des référenciations plus studieuses, émanant de la recherche, émanant du débat, émanant de l'université. Bon, il y a un exemple évidemment qui saute tout de suite aux yeux, c'est concernant par exemple le conflit au Moyen-Orient, où les sources documentaires viennent davantage de la presse, plutôt que des grandes revues géopolitologues comme Yves Lacoste, ou Outre-mer de Corinne Mann, ou celle d'une série... le laboratoire du CNRS de Sciences Po. Bon, mais ça se fait sentir même peut-être des fois dans les sémantiques ou dans le type de lexical qui peut être utilisé. Il n'y a pas cette distance dans le langage. Mais vraiment, ce sont que des remarques qui ne méritent pas, qui méritent l'observation, mais qui ne méritent pas la polémique. La deuxième chose qui ressort de cette exploration, c'est qu'il y a un certain nombre d'inexactitudes, plutôt de maladresses de formulation, quelquefois des défauts de date, des fluctuations qui ont été relevées pour le sérieux du travail, mais dont je ne retiendrai que... quelques lignes essentielles. Par exemple, Dreyfus est presque toujours présenté d'origine juive, tandis que Stavinsky est toujours présenté comme un escroc juif. on s'interroge sur le glissement de l'un à l'autre, ça donne une espèce de visibilité imprévisible et parfois incompréhensible. Bloom, des fois il est présenté comme un bourgeois d'origine juive, des fois il n'en est pas fait mention, donc là aussi on ne sait pas qu'est-ce qui procède en amont de ce genre de définition, mais je vous dis, c'est des remarques, subalternes. L'antisémitisme n'est pas toujours défini, mais c'est pas toujours évoqué dans un certain nombre de situations, mais dans d'autres livres, ça l'est. L'antisémitisme de gauche est jamais systématiquement évoqué, c'est-à-dire celui de Proudhon, de Blanqui, de Fourier, de Juliette, ce sont des choses qui n'existent pas du tout, il est toujours rapporté à uniquement l'extrême droite, postérieurement à l'affaire Dreyfus. Enfin, il y a d'autres petites nuances, mais vous voyez que c'est des nuances de détails, hein, encore que les détails, c'est pas toujours négligeable, mais on parle en général de la libération des camps, quand il s'agit de la Shoah. On sait qu'il vaudrait mieux parler plutôt de l'ouverture des camps par les forces alliées plutôt que la libération, parce qu'en général, ça s'est toujours fait par hasard, plutôt que ça a été un objectif de guerre. Donc, c'est une libération induite plutôt que par une ouverture plutôt qu'un objectif de guerre. On parle de Buna, Monowitz, en distinguant Auschwitz de Buna, Monowitz, alors que c'est Auschwitz III, ou bien concernant par exemple le conflit au Moyen-Orient et la naissance de l'État d'Israël, on présente l'Irgun comme l'organisation sioniste de combat, alors que l'Irgun n'était qu'une des organisations sionistes de combat et une des milices du sionisme parmi d'autres. Vous voyez, il faut chercher, hein. Il faut le chercher pour trouver des choses qui puissent poser des problèmes. Néanmoins, c'est là. On pourrait dire que la seule chose massive qui est récurrente, qui ferait interrogation, c'est lorsque, systématiquement, on parle de Palestine au temps des Hébreux. Alors, ça par contre, ça c'est un systématique. Donc Jésus est né en Palestine. On trouve dans un ouvrage, je ne vais pas cafeter, hein, mais on trouve dans un ouvrage que les Juifs sont arrivés en Palestine en 1000 avant Jésus-Christ. Jérusalem est la capitale de la Palestine, à l'époque des Romains. Or, l'histoire veut que le nom de Palestine a été imposé par l'empereur Adrien en 135, avec changement aussi du nom de Jérusalem, qui est devenu Aelia Capitolina, et que avant ça s'appelait la Judée. Et d'ailleurs, on en trouve encore dans un certain nombre de... En espagnol, on dit Judios, ou en allemand, on dit Juden. Et ça renvoie à la Judée, aux Judéens. Donc là, on pourrait dire qu'il y a une espèce de question. Pourquoi est-ce que systématiquement on parle de Palestine? Là, on devrait parler historiquement de Judée. C'est-à-dire, la question s'est posée, comment vous, enseignant, vous réagiriez, vous noteriez un élève qui vous dirait que Vercingétorix était français, ou que Lutèce était la capitale de la France. C'est-à-dire, bon, voilà. Là serait un problème, mais il n'y en aurait pas beaucoup d'autres à évoquer de ce point de vue. Enfin, quand il s'agit de l'histoire des peuples de la Méditerranée, en général, on parle de trois civilisations. On parle de la civilisation catholique romaine, de l'islam et de l'orthodoxie. Or, le judaïsme et les populations juives sur le bassin méditerranéen ont été présentes depuis, évidemment, l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et il y a toute une histoire très importante autour de ça. Donc, la dernière remarque aussi, c'est qu'on parle en général de l'Ancien Testament et que l'Église parle même plus aujourd'hui d'Ancien Testament. Beaucoup parlent de Premier Testament et Deuxième Testament plutôt que d'Ancien et Nouveau Testament. Bon, tout ça pour passer au vrai problème, peut-être. Le vrai problème serait celui-ci. C'est que si on lit l'histoire de France, les livres d'histoire de France de tout le corpus, les Juifs apparaissent sous forme d'Hébreux dans l'Antiquité, puis d'un seul coup, on les voit réapparaître avec l'affaire Dreyfus, la Seconde Guerre, la Shoah, l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, avec un blanc absolu entre les deux. Donc on ne comprend pas comment ils réapparaissent, pourquoi ils réapparaissent, qui sont-ils. En général, le discours latent, implicite, c'est que les Hébreux ont été, c'est comme ça que c'est raconté en général, les Hébreux et le judaïsme a été bonifié par Jésus-Christ et le message christique, et qu'en conséquence, il a absorbé le judaïsme, donc il ne se justifie plus d'être mentionné sous les trois formes qui sont celles que Albert Memmi désignait pour parler du fait juif, c'est-à-dire le judaïsme en tant que système de valeurs, comme code, grand code, dans l'expression de Northrop Frye, les judéités, c'est-à-dire le sentiment des juifs, et les judaïcités, c'est-à-dire l'existence sociale de communautés juives. Donc, plus rien de ça n'apparaît, et puis on voit réapparaître. Et alors, du coup, on a une représentation des juifs, c'est ils ont disparu dans l'Antiquité, c'est un peuple antique, et puis ils réapparaissent avec la Shoah, et alors là, ils réapparaissent en tant que victimes absolues, comme le disait Benoît Falaise dans le rapport et l'article sur son enquête, la Shoah, c'est la monstruosité absolue, c'est l'envers absolu des droits de l'homme, et donc du coup, il y a une espèce d'instrumentalisation du nom de juif associé à celui de victime absolue, ce qui a pour conséquence évidemment de les désincarner totalement, de les rendre totalement invisibles et d'escamoter toute une histoire. Et toute une histoire, à la fois l'histoire du peuple juif, mais aussi, je dirais, à la façon dont Marc Ferro, dans son livre sur comment on raconte l'histoire aux enfants, il dit en général l'histoire de l'Europe n'a rencontré les autres histoires que quand ça venait de croiser la sienne. Mais l'histoire du peuple juif a croisé beaucoup l'histoire de France et l'histoire de l'Europe. Et là, par contre, ça n'existe pas. Et si on voulait être un petit peu comme ça, gentiment polémiste ou moqueur, on pourrait dire que aujourd'hui, l'endroit en France, et c'est un paradoxe un peu ironique, l'endroit en France où les conceptions de l'Église d'avant Vatican II règne encore sur la perception des Juifs, c'est dans les livres de l'éducation nationale laïque. Alors qu'il y a eu un travail, un mouvement qui s'est fait dans l'Église, qui n'est plus substitutionniste comme avant. Par contre, aujourd'hui, c'est ça qui donne le « là » et c'est ça qui est la trame sous-jacente. Donc, ça fait rigoler un peu, je crois. On peut dire que ça fait rigoler. On peut voir que peut-être ça tient aussi. Alors, c'est un paradoxe, parce que d'une certaine façon, c'est Ernest Lavisch qui, en 1890, donnait le credo de ce que devait être l'histoire, en disant « notre histoire commence avec les Grecs hein. ». Alors, d'un côté, ça appartenait au grand conflit, au grand bras de fer et à grand combat politique en France, entre le monde de l'éducation nationale, le monde de l'enseignement et puis de la République face au cléricalisme pour arracher l'enseignement aux cléricaux. Du coup, il s'agissait de nier la Bible, puis en même temps, il fallait faire un compromis. Alors ce compromis, c'est quand même calé sur un enseignement chrétien presque frelaté. Et on en a le reste aujourd'hui. Voilà, ça c'est le principal problème que l'on peut voir. Je rappellerai que non seulement les Juifs ont vécu, mais ils rencontrent l'histoire de France à plein d'occasions, ne serait-ce d'abord par les expulsions, ou les arrivées. La minorité juive est probablement la plus ancienne en France, puisqu'elle était là déjà avant Jésus-Christ. Il y avait des communautés sur le territoire qui est devenu le territoire national français. Mais dans l'histoire, il y a quand même des éléments. On peut parler de la peste, on peut parler je parle d'un point de vue purement historique. On peut parler du rôle des croisades et que ce qui se passait pendant les croisades et les massacres qui pouvaient accompagner les croisades. Mais on n'est pas obligé de parler que par le négatif. On peut parler par le positif aussi. Et par le positif, on peut quand même parler de la Révolution française et du fait que la Révolution française a donné le statut de citoyenneté et qu'elle a libéré les Juifs de la situation dans laquelle ils se trouvaient jusque-là. C'est-à-dire que c'est un moment historique absolument colossal qui est à l'honneur et à la gloire de la Révolution française et de la France. Or, ce n'est pas évoqué. Voilà quelques trucs. Maintenant, en philosophie, on a le même problème. C'est-à-dire qu'en philosophie, on ne parle que de Spinoza. Et en général, quand on parle de Spinoza, c'est plutôt pour souligner son aspect déjudaïsé, voire anti-judaïque, alors que qui connaît les textes juifs et qui connaît Spinoza peut témoigner que c'est un débat aussi interne. C'est un débat à la fois externe, mais à la fois un débat aussi interne. On peut pas dénaturer Spinoza comme ça. Qu'aujourd'hui, on vient d'introduire Lévinas depuis les nouveaux programmes de 2003, mais que Lévinas est moins traité par son aspect de penseur juif, avec ses lectures talmudiques, etc., que par son aspect phénoménologue. Donc voilà. De la même façon, on a bien fait d'introduire Averroès, mais je rappelle que dans la rationalité au Moyen-Âge, il y a Maïmonide autant qu'Averroès, et que ce sont les deux figures qui vont organiser le lien entre le monothéisme et articuler le lien du monothéisme avec l'aristotélicisme et la rationalité aristotélicienne. Bon, voilà. Il y a plein d'autres exemples. On peut parler de la naissance de l'humanisme, de la Mirandole qui s'est beaucoup enseignée auprès des rabbins kabbalistes du Languedoc. Il y a eu un des plus grands penseurs du judaïsme qui s'appelait Rashi, qui était un champenois. Je veux dire, il y a matière à faire que les juifs cessent d'être désincarnés et donc à les faire exister autrement que par le statut de victimisation absolue. On me dit que j'ai plus que 5 minutes, donc je vais faire brièvement la deuxième partie de mon intervention, et on reviendra peut-être dessus si ça présente un intérêt pour vous, sur la question de l'enseignement de la Shoah. Il y a deux remarques à faire. La première, c'est qu'il me semble, alors je vais peut-être être un peu provocateur, mais il me semble que l'enseignement de la Shoah ne devrait pas faire l'objet de notation ou d'un rituel qui soit un rituel, je dirais, d'apprentissage obligé. C'est quelque chose qui doit être parlé, au contraire, en profondeur. Je vais revenir dessus. Mais c'est quelque chose aussi qui... J'étais à Yad Vashem, à une réunion de travail avec des gens à Yad Vashem sur ces questions. J'ai appris, j'étais abasourdi, que la Shoah est une matière à enseigner. Et qu'il y a des examens aussi. Je veux dire, des compositions, en Israël, sur la chaîne. Et quand j'ai appris ça, je me suis un petit peu énervé et j'ai dit, mais écoutez, c'est pas convenable. C'est pas convenable pour une seule chose. Parce que quand on entend comment les élèves parlent, tous, ils parlent en hébreu, en français, en allemand, en anglais, ils diront toujours, combien t'as eu à ta Shoah, est-ce que t'as fait ta Shoah, etc. Et je veux dire, rien que de les mettre dans une espèce de déviation du langage de ce type, eh ben il vaut mieux s'en dispenser. Ça c'est une première chose. C'est un des premiers aspects. Le deuxième aspect, c'est que l'enseignement de la Shoah, c'est pas seulement la question des victimes. Évidemment, c'en est une. Mais la Shoah, c'est quelque chose qui est le produit du nazisme. Et je veux dire par là que il y a la Shoah, c'est un aspect massif, le plus important, le plus dramatique, le plus catastrophique, le plus tragique, d'un dispositif plus global. Il y avait aussi le programme T4 d'euthanasie. Il y avait aussi le programme du Lebensborn, d'eugénisme, et les trois étaient rassemblés sous l'égide de la SS et de Himmler. Et je veux dire que il faut, plutôt que d'insister, les faits sont là, il y a à les établir, et je crois que aujourd'hui dans l'éducation nationale, personne n'aurait à redire sur ce qui est le matériel à disposition, la façon dont c'est traité dans les bouquins, soviétique, une question que je dis tout à l'heure, mais je veux dire, la façon dont c'est traité dans les livres scolaires, la façon dont les enseignants s'en occupent, le fait qu'il y ait des déportés qui viennent en parler, le fait qu'il puisse y avoir des voyages qui emmènent des classes sur les sites de l'extermination comme à Auschwitz, le matériel parascolaire qui existe de revues, de fascicules, de livres, je veux dire, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc la question, elle n'est pas là. Elle n'est pas qu'il y a un déficit de matériel. Je dirais qu'elle est, je dirais une minute, hein. Elle n'est pas un déficit de matériel, elle est peut-être de la façon de l'aborder et de décaler le traitement du sujet. Et pour moi, le traitement du sujet, c'est de faire comprendre qu'elle est prise dans quelque chose, dans une crise de l'histoire humaine, dans une crise politique majeure, dont le nazisme est l'instrument et le véhicule. Et à ce titre-là, elle mérite d'être parlée à côté du programme T4, à côté de Lebensborn. Et je dirais par ailleurs qu'elle n'est pas seulement, si les historiens, c'est le cœur de l'affaire pour cette transmission, elle n'est pas seulement à traiter là, elle peut être traitée en littérature, avec les littératures et des témoignages. Je veux dire que Charlotte Delbault, Primo Levi, enfin bon bref, ça manque pas, de grands, grands écrivains. Je veux dire, on apprend la grande littérature et en même temps, ça traite du sujet. Ça peut être traité en science en traitant de la question du scientisme. Ça peut être traité en sciences sociales avec la question de qu'est-ce que c'est que le nazisme, je veux dire, comme sociologiquement, dans ses pratiques criminelles. Ça peut être traité en philosophie avec les questions du totalitarisme, avec les questions de la responsabilité. Enfin, je veux dire, ça peut être transdisciplinaire, induit, sans être massif, et sans être, sans faire l'objet, en effet, de ce que Benoît Falaise pointait, c'est-à-dire un poncif, quelque chose qui oblige à s'émouvoir, etc. De toute façon, les vraies souffrances de chacun, quelles qu'on soit, elles ne sont pas partageables. On peut pas éprouver l'éprouver des autres. Hein? Par contre, on est convoqué à penser par les souffrances des autres. Et ça, c'est autre chose. Voilà, j'ai compris.